Nous prenons la parole dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 18. Corinthiens 1, verset 18. La Bible dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, lorsque l'on parle de prédication, ça sous-entend un enseignement, ça sous-entend un message dans lequel nous avons quelque chose à retenir, quelque chose qui doit nous servir à avancer, quelque chose qui doit servir à nous éduquer. Donc lorsqu'on donne une éducation, on donne aussi des enseignements. Et la prédication est là pour nous donner une orientation, pour nous donner une voie à suivre, pour nous apprendre, pour nous faire grandir. Et la Bible nous dit que le message qu'à la croix, lorsque Jésus-Christ était à la croix, eh bien, cette crucifixion était un message, bien entendu, qui s'adresse dans un premier temps à toute l'humanité, mais par la souveraineté de Dieu, il a permis qu'il n'y ait que ceux qui ont le cœur humble, ceux qui se soumettront à la volonté de Jésus, qui pourront bien comprendre cette prédication. Aujourd'hui, lorsque nous donnons un message, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est cette différence qui a existé lorsque Jésus-Christ prêchait parmi le peuple qui a fait que certains acceptent son évangile et d'autres se ferment à cet évangile. D'autres ne reçoivent pas le salut. Non pas parce que d'autres étaient meilleurs que d'autres, non. Non pas que certains avaient reçu des cœurs différents de la part de Dieu, non. Mais l'homme étant maître, comment dire, dans son choix, étant maître dans son comportement, eh bien, son comportement va influencer la manière dont il va recevoir la parole. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui entre ceux qui écoutent l'évangile et qui acceptent le Seigneur et ceux qui écoutent le même évangile, mais qu'ils restent toujours braqués. Pourquoi ? Parce qu'ils sont orgueilleux. Or, c'est par l'humilité aujourd'hui que nous pouvons comprendre clairement le message de Dieu. La prédication de la croix, ce que Jésus-Christ était venu apporter sur la terre, ce qu'il était venu apporter en acceptant de mourir à la croix était un message spirituel que seuls ceux qui avaient le cœur humble pouvaient saisir. C'est pourquoi la Bible dit que c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Comment par la mort d'un homme, comment par le fait qu'un homme soit crucifié sur la croix, on peut accéder à la vie éternelle? C'était quelque chose d'impensable à l'époque et jusqu'aujourd'hui encore, qui pousse certains à rire, qui pousse certains à se moquer, qui pousse d'autres à dire que c'est un mythe, c'est une légende. Ben, ils sont amusants, ces chrétiens, lorsqu'ils racontent leurs belles histoires de la Bible. Donc ce sont des histoires qui paraissent folles, le fait qu'un homme puisse être crucifié et tout simplement en l'acceptant, on est pardonné de tous nos péchés, tout simplement en l'acceptant, on a maintenant accès au lieu très saint, tout simplement en l'acceptant, on a cette promesse de voir un jour le Seigneur en face. La Bible dit que c'est une folie. C'est une folie. Et bien entendu, lorsque nous raisonnons selon l'intelligence humaine, bien sûr que ça paraît impossible, ça paraît improbable. Quel rapport y a-t-il entre la mort d'une personne et le fait qu'un des quatre matins je me lève et que je sois guéri? Quel rapport y a-t-il entre la mort d'une personne et le fait qu'un jour je puisse me retrouver en face avec le Seigneur? Mais beaucoup de gens font du bien. Et c'est pourquoi c'est une folie. Parce que les gens disent, mais est-ce qu'il fallait absolument qu'une personne meure? Il y a des gens qui font le bien dans le monde. Il y a des gens qui donnent aux pauvres. Et ces gens-là qui font ces choses-là, pour eux ont l'assurance qu'un jour ils verront le Seigneur. Alors lorsqu'on leur dit que ben non, ce n'est pas ta bonté apparente, ta bonté humaine qui t'amènera à connaître un jour le Seigneur, ils tombent de haut. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui, bien-aimés, même dans le courant chrétien, où certains disent que des personnes comme Nelson Mandela, parce qu'ils ont passé des années en prison pour leur peuple, alors automatiquement, ils iront au paradis. Bien-aimés, c'est faux. Le Seigneur dit que c'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Certains s'étonnent et trouvent extrémiste lorsqu'on dit que des personnes comme ceux qui ont fondé Emmaüs, comme Mère Teresa, ne sont pas auprès du Seigneur, mais on paraît comme des fous, on paraît comme des extrémistes. Mais la Bible dit, oui, que la prédication de la croix est une folie. Et c'est une folie pour les gens du dehors lorsqu'ils nous entendent dire des choses ainsi. Mais bien aimé, on ne peut pas réécrire la parole de Dieu. Le Seigneur a été clair, il a été catégorique. Nul ne vient au Père que par lui. Et cette prédication-là, beaucoup ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas parce qu'ils ne s'humilient pas devant le Seigneur pour reconnaître leur faiblesse, pour reconnaître leur incapacité, afin que dès cet instant, le Seigneur maintenant puisse transformer leur intelligence et leur faire comprendre clairement le message de la croix. Qu'est-ce que le Seigneur est venu faire sur la croix? Pourquoi est-il venu sur la croix? Dieu nous a fait cette grâce, à nous qui l'avons accepté aujourd'hui, de comprendre ce message-là, de comprendre que s'il y a des guerres, de comprendre que s'il y a des catastrophes naturelles, de comprendre que s'il y a des vols, il y a des viols, il y a de la pédophilie, toutes ces choses pour lesquelles les hommes se rebellent vis-à-vis de Dieu, nous savons que ces choses ne sont que la conséquence du péché. Ce n'est pas le Seigneur qui fabrique les armes, ce n'est pas le Seigneur qui envoie des bombes, ce n'est pas le Seigneur qui envoie certaines personnes aller faire du tourisme dans certains pays asiatiques pour pouvoir profiter des jeunes filles ou des jeunes garçons. Ce n'est pas le Seigneur qui leur parle pour aller là-bas. Mais nous avons eu cette révélation que Dieu était bon. Nous avons eu cette révélation du message de la croix. Ainsi, nous pouvons comprendre toutes les conséquences que la terre manifeste, toutes les conséquences que nous voyons dans le monde. Mais la Bible dit qu'elle est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. L'évangile, la prédication de la croix est une puissance dès l'instant où nous avons compris réellement son sens, dès l'instant où nous avons compris réellement ce que le Seigneur a fait pour nous. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent une vie chrétienne difficile, une vie chrétienne misérable. Et beaucoup d'entre nous qui sommes tant de fois découragés par les combats, les événements que nous pouvons vivre, c'est parce que bien souvent, nous oublions ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. Les apôtres, les disciples de Jésus, ont pu tenir bon jusqu'au bout parce qu'ils ont vu, ils ont connu, ils ont réalisé ce que le Seigneur avait fait pour eux à la croix. La prédication de la croix répond à toutes les questions que l'humanité peut se poser. Bien souvent, nous sommes dans le besoin et ce besoin nous emmène dans l'angoisse, nous emmène dans le stress, quelquefois même dans la dépression nerveuse. Les besoins nous emmènent quelquefois à tricher, à voler, à contourner les règlements parce que nous sommes dans le besoin. Mais toutes les fois où nous manifestons ce comportement, bien-aimés, ce sont toutes les fois où nous oublions la prédication de la croix. Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Tout ce dont l'homme avait besoin, toutes les questions que l'homme se posait, Jésus-Christ a résolu l'équation à la croix une fois pour toutes. Alors pourquoi aujourd'hui, lorsque nous sommes dans le besoin, et que ce besoin nous emmène à être tristes, nous emmène à nous lamenter, bien-aimés. Mais nous oublions que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Tous les passages que nous lisons dans la Bible résument en quelque sorte la venue de Jésus et l'objectif pour lequel le Seigneur Dieu avait envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix. N'est-il pas écrit dans Philippiens 4, 6 « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins, bien-aimés. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. On ne peut plus s'inquiéter puisque ce qui est l'objet de notre inquiétude, Jésus-Christ l'a déjà vaincu à la croix. Jésus-Christ nous l'a déjà donné à la croix. Toutes les choses pour lesquelles nous nous inquiétons, les choses pour lesquelles nous espérons, bien-aimés, qui sont sur la terre et qui n'ont aucun prix devant le sacrifice de la croix, bien-aimé, ne doit pas nous emmener à nous inquiéter. Si le Seigneur a donné ce qu'il avait de plus cher, bien-aimé, quelle chose de ce monde il va nous refuser? Bien-aimé, on serait comme en face d'une personne. Tu lui demandes 1 000 euros, il te les donne. Et après, un autre jour, tu hésites pour lui demander 1 euro. Mais cette personne va dire, mais lui, il n'est pas normal. Si je suis capable de lui donner 1 000 euros, pourquoi je ne serais pas capable de lui donner 1 euro? L'écart est considérable. Alors si le Seigneur a donné tout ce qu'il avait de plus cher, pourquoi aujourd'hui ses enfants seraient-ils encore dans l'inquiétude? S'il a donné ce que les cieux des cieux ne peuvent contenir, Il a donné ce que ni l'or ni l'argent ne peut racheter pour notre salut, pour notre besoin bien-aimé. Alors pour quelle chose aujourd'hui on pourrait se tracasser? On s'inquiète quelquefois. Seigneur, mais mon fils n'est pas converti. Seigneur, ma mère n'est pas convertie. Seigneur, mes parents ne sont pas convertis. Le fardeau, Dieu nous le donne dans la prière. Mais c'est un fardeau qui nous pousse à nous lamenter, qui nous pousse à pleurer, à avoir des soucis, à nous retrouver à l'hôpital avec des ulcères. Mais bien aimé, toutes les fois où nous sommes dans cet état, que nous dit la prédication de la croix? Est-ce que nous nous souvenons de ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix? Si réellement nous portons cette parole, si nous portons cette prédication à la croix, quel que soit le niveau d'un converti, quel que soit le niveau dans lequel tel homme ou telle femme, la société l'a classé, dans ceux qui ne pourront jamais changer, dans ceux qui ne pourront jamais évoluer, bien-aimés, que nous dit la prédication de la croix? Jésus-Christ dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur est venu le jour où il a ressuscité Lazare. Les gens étaient dans l'angoisse, les gens étaient dans les pleurs. Il dit, mais Seigneur, si tu avais été là, certainement il ne serait pas mort. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Le Seigneur dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jésus-Christ annonçait sa crucifixion, mais il annonçait aussi sa résurrection. Et par sa mort et sa résurrection, il a prouvé qu'il était au-dessus de tout. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi être dans les tourments? Pourquoi être dans les soucis? Puisque toutes les réponses nous sont données à la croix. Jésus-Christ a tout accompli. Bien-aimés, nous voyons que beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur, rien que dans la Bible, n'ont pas eu des révélations extraordinaires. Beaucoup de personnes qui ont suivi le Seigneur n'ont pas vu des miracles. Le voleur à la croix n'avait vu aucun miracle. Le voleur, le brigand qui était à la croix, il était là. Il a eu cette révélation. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton règne. L'eunuque qui allait pour adorer Dieu, qui rencontra un des disciples de Jésus, qui lisait un texte qu'il ne comprenait même pas. Il n'avait pas vu les miracles de Jésus. Mais tout simplement, lorsqu'il a eu la révélation, à partir d'Ésaïe 53, qui annonçait la mort de Jésus, qui annonçait les souffrances de Christ. Lorsque le disciple de Jésus lui a expliqué cela, bien-aimé, aussitôt, il a donné sa vie. La prédication de la croix, bien-aimé, ne se renferme pas tout simplement dans des prodiges et dans des miracles. Ce que nous voulons retenir du Seigneur. Seigneur, souviens-toi, tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts, alors tu peux aussi me guérir, tu peux aussi ressusciter. Bien-aimé, le miracle pour les morts, le miracle des guérisons, bien-aimé, se résume à la croix. Il n'y a pas eu un des plus grands miracles que le Seigneur a fait que de pouvoir mourir et de ressusciter. Alors lorsque notre foi est fondée tout simplement sur les guérisons que le Seigneur a fait, en relevant les paralytiques, en donnant la vue aux aveugles, bien aimé, si notre foi est fondée tout simplement sur ces miracles-là pour nous pousser à prier le Seigneur, alors c'est que notre foi est petite. Si notre foi est grande, elle doit être fondée sur la plus grande chose que le Seigneur a fait. C'est de pouvoir mourir et le troisième jour de ressusciter. Guérir, bien-aimé, il y a des gens qui ont fait des guérisons. Nous voyons dans l'Ancien Testament, on pourrait se limiter tout simplement à croire en Élie. Élie a guéri aussi. On pourrait se limiter à croire à Moïse. Il a fait des exploits et des prodiges. On pourrait se limiter à croire tout simplement en Élisée. Même lorsqu'il est mort, la Bible dit que ses ossements ont ressuscité les morts. On pourrait se limiter à croire ces prophètes-là. Mais il y en a un qui a fait plus que ça, qui a prouvé qu'il était au-dessus de ça, c'est celui qui est mort et qui est ressuscité. Alors lorsque notre foi est fondée sur les guérisons, que même quelquefois des marabouts arrivent à faire, que des sorciers arrivent à faire, bien aimé, notre foi est petite. Notre foi doit être fondée sur ce qui est incomparable, sur ce que l'homme n'a pas pu prouver, sur ce que les hommes de ce monde n'ont pas pu manifester, c'est de mourir et de ressusciter. C'est pourquoi la Bible dit que cette prédication-là est une folie pour ceux qui périssent. Tu pourrais dire que tu as été guéri miraculeusement, mais il y a des tas d'hommes aujourd'hui qui ouvrent des cabinets de guérisseurs, qui ouvrent des cabinets de magnétiseurs et qui quelquefois font des exploits. Ils font des miracles. Mais la Bible dit que ce n'est pas étonnant puisque Satan même se déguise en ange de lumière. Alors il donne cette capacité aux hommes de pouvoir guérir. Il donne cette capacité aux hommes de pouvoir faire certains exploits. Mais il y a un exploit qui est au-dessus de tout, par lequel le Seigneur lui-même est venu faire la différence, c'est sa mort et sa résurrection. Le Seigneur, vous verrez bien aimé, ne nous a pas demandé, mais souvenez-vous que j'ai guéri les malades, souvenez-vous que j'ai ressuscité les morts ou que j'ai multiplié les pains. Le Seigneur dit, souvenez-vous de moi, souvenez-vous de ce que j'ai fait, prenez ceci, c'est le corps qui est donné pour vous. Buvez ceci, c'est le sang qui est versé pour vous. Le Seigneur est venu dire, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci, à chaque fois que vous faites cela, vous vous souvenez de ce que j'ai fait pour vous à la croix. Le Seigneur n'attend pas de nous qu'on se souvienne des guérisons ou des miracles tout simplement. Ce n'est pas mauvais de s'en souvenir. Mais si notre élan, si notre foi bien-aimée est tout simplement fondée sur toutes ces choses-là, alors notre foi est petite. Et nous sommes bien-aimés de ceux pour lesquels la prédication de la croix est une folie. Il y a des personnes qui ont une facilité quelquefois à croire un petit peu certains miracles de Jésus. Mais devant la mort, devant Jésus-Christ à la croix, ils sont perplexes, bien-aimés. Et vous savez, beaucoup de ces personnes-là qui abandonnent la foi, ce sont ceux qui ont oublié la prédication de la croix. Ils ont basé leur vie chrétienne sur les miracles de tous les jours. Ils ont manifesté leur vie chrétienne sur les guérisons que Dieu leur donnait. Ils ont manifesté leur vie chrétienne sur les bénédictions financières que Dieu donnait. Et ils se sont contentés de ça. Mais ceux qui ont gardé le souvenir de Jésus-Christ sur la croix, ce sont ceux-là qui ont été jusqu'au bout. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, j'ai considéré tout comme perte. L'apôtre Paul faisait des miracles, il faisait des guérisons, il donnait des enseignements propres, clairs, des enseignements même que ceux qui étaient venus avant lui n'ont pas pu donner. Et mais il dit, j'ai renoncé à tout ça. J'ai considéré tout ça comme perte pour gagner Christ. Il dit, je n'ai connu autre chose que Christ crucifié. C'était ça, bien-aimé, qui faisait sa force. C'était le souvenir de son maître à la croix. Ce n'est pas les choses, bien-aimées, pour lesquelles nous nous inquiétons. Le mariage, les enfants, bien-aimés. Si notre foi est fondée sur les choses, même que les païens peuvent avoir, alors notre foi est petite et notre foi est vaine. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie, bien-aimé. La prédication de la croix est impensable. Nous lisons Marc chapitre 15. Celui bien-aimé qui retient la prédication, qui comprend le message de la croix profondément, qui réalise ce que le Seigneur a fait pour lui, bien-aimé, c'est de cette manière-là que d'une manière générale, la Bible deviendra beaucoup plus claire pour nous. Il y a des personnes qui font des années et des années d'études de la Bible. Les théologiens, ils étudient la Bible, quelquefois verset sur verset, ils te les donnent mieux encore que des pasteurs qui prêchent depuis longtemps. Ils parlent hébreu, ils parlent grec. Bien-aimé, mais dans leur cœur, ils n'ont pas compris la prédication de la croix. Et jusqu'aujourd'hui, après 15 années d'études, ils ne sont toujours pas convertis. Ce n'est pas le nombre, ou comment dire, la quantité de connaissances que nous avons qui fera de nous de bons chrétiens, bien-aimés. Ce qui nous qualifiera, c'est le fait d'avoir saisi le Seigneur, d'avoir compris qui était Dieu. Ainsi, tous ces petits-là, les disciples de Jésus-Christ, qui n'avaient pas étudié, qui étaient des pécheurs, parce qu'ils avaient compris qui était leur maître, ils pouvaient même enseigner les pharisiens. Nous voyons, bien-aimés, même lorsque cet homme qui était aveugle de naissance a été guéri. Les pharisiens lui demandent, mais qui t'a guéri? Il dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme commence à leur dire, mais vous, c'est étonnant que vous ne croyez pas. Pourtant, cet homme m'a guéri. C'est étonnant, puisque nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. A-t-on déjà vu un homme guéri en aveugle-né? Les pharisiens lui disent, tais-toi, tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner. Oui, cet homme-là les enseignait. Il n'avait pas eu ses yeux pour pouvoir enseigner tout ce que les pharisiens pouvaient comprendre. Mais parce qu'il avait saisi qui était Jésus-Christ, il pouvait leur enseigner. Celui qui a reçu le Seigneur, celui qui a compris le message de la croix, bien-aimé, produira beaucoup plus de fruits que celui qui a beaucoup d'enseignements, mais qui dans son cœur n'a pas vraiment compris qu'est-ce que le Seigneur a fait pour lui. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui s'engagent dans la vie avec le Seigneur, qui tiennent ferme avec le Seigneur. Ce sont ceux vraiment qui ont compris qu'est-ce que le Seigneur a fait pour eux. Beaucoup qui traînent dans la vie chrétienne, beaucoup de ces gens-là ne réalisent pas vraiment ce que Dieu a fait pour eux. Le Seigneur a dit, celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. celui à qui on a peu pardonné aime peu. Celui qui réalise peu ce que le Seigneur a fait pour lui aimera aussi le Seigneur peu. Mais celui qui réalise vraiment la grandeur, l'amour du Seigneur, tel que Jésus-Christ l'a manifesté, celui-ci aussi aimera beaucoup le Seigneur. Ce n'est pas la grande quantité d'enseignements, bien-aimés, qui fera la différence. Ce qui fera la différence, c'est même le peu de connaissances, mais que nous avons bien, bien compris de Dieu. Que nous avons bien compris l'élément essentiel, ce par lequel Jésus-Christ est venu faire la différence, c'était la mort et la résurrection. Celui qui a compris ce principe-là de l'amour de Dieu, celui qui a compris le sacrifice de la croix, a compris en grande partie le message de l'Évangile. Et beaucoup qui en ont la connaissance, qui en ont dans la tête, bien-aimés, mais qui ne réalisent pas la prédication de la croix, beaucoup de ces gens-là traînent dans la vie chrétienne. Marc, chapitre 15, à partir du verset 16, la Bible dit « Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer, « Salut au roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani !» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Amen. Jésus-Christ amené sur le lieu nommé Golgotha. La Bible nous dit que les soldats l'ont revêtu d'un manteau de pourpre. Le manteau de pourpre, c'était le manteau que mettaient les chefs de l'époque, avec une couronne d'épines. Ils se sont moqués de lui en le revêtant comme une autorité, comme un roi de leur époque, comme un roi du monde. Ils ont fait de Jésus-Christ un roi selon leur image. En réalité, un roi misérable, un roi souffrant. C'est cette image qu'ils avaient du Seigneur, bien-aimé. Et c'est cette image encore que le monde a du Seigneur. Un roi encore sur la croix, parce que certaines religions montrent Jésus encore sur la croix en train de souffrir. En omettant de rappeler que le Seigneur est ressuscité. Jésus-Christ encore sur la croix, encore souffrant. Voilà comment les soldats vont le revêtir. Et c'est ce regard que le monde a sur lui aujourd'hui. C'est pourquoi la prédication de la croix est une folie. Pour eux, la résurrection, c'est quelque chose d'impossible. Accepter peut-être, croire encore, qu'il a souffert. C'est ce que disent certaines religions. Mais accepter le fait qu'il est ressuscité, qu'il est revenu à la vie, ça c'est beaucoup plus difficile. C'est une folie de croire ça. Pourtant, il a été crucifié avec une couronne d'épines. Bien-aimé, l'épine, lorsque Adam a péché, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a commencé à annoncer toutes les malédictions, il a dit, l'homme travaillera à la sueur de son front, il te sortira des épines. Il te sortira des épines. Donc, pour travailler la terre, ça deviendra difficile. Donc, les épines étaient, la manifestation d'une des malédictions que Dieu avait envoyées sur la terre. Et ce sont ces épines-là que les soldats vont prendre pour en faire une couronne pour le Seigneur, une couronne de malédiction. Nous voyons par la suite, bien-aimés, ils se sont moqués de lui. Ils ont craché sur lui. On l'a cloué avec un brigand à gauche, un autre à droite. La Bible dit afin que l'Écriture s'accomplisse. On l'a mêlé avec les voleurs, quelqu'un qui était juste, quelqu'un qui a fait le bien. Lorsqu'on l'a amené devant Pilate, on l'a amené devant Hérode. L'un comme l'autre, on dit, mais nous n'avons rien à lui reprocher à cet homme. Les juges avaient reconnu qu'il n'était pas condamnable. Il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucun argument qui pouvait montrer que Jésus-Christ était dans le péché, qu'il était dans le faux, qu'il était dans la désobéissance vis-à-vis, du pays, vis-à-vis du peuple. Il n'avait rien fait de mal. Il n'y avait rien. Mais malgré cela, ils l'ont quand même mis au nombre de ceux qui étaient des brigands bien-aimés. On a mêlé le roi des rois avec des voleurs afin que la parole s'accomplisse. Jésus-Christ a été déconsidéré, a été mis de côté. Il n'a pas été jugé selon sa juste valeur. Il n'a pas été jugé selon les œuvres qu'il avait accomplies. Mais il a été regardé comme tout autre malfaiteur à la croix, bien-aimés, cloué à la croix. Nous voyons par la suite que même ces brigands-là l'insultaient. Les gens se moquaient de lui. Mais toi qui as dit que tu pouvais reconstruire le temple en 3 jours, mais descends de la croix. Sauve-toi toi-même. Jésus-Christ était dans une situation d'infériorité visible, infériorité apparente. Les disciples l'ont laissé, les disciples l'ont abandonné. Le même peuple qui était là, qui l'avait suivi, qui avait vu la multiplication du pain, qui avait entendu la parole de Jésus-Christ, tous l'ont abandonné parce que le Seigneur était comme dans une situation défavorable, comme dans une situation de perdant. Bien-aimé, la Bible dit que le disciple sera comme son maître. La prédication de la croix, bien-aimé, nous enseigne que si nous sommes appelés à vivre comme Jésus-Christ, alors nous, on sera aussi mis de côté. Les gens feront de nous ce qu'ils veulent. Ils diront de nous ce qu'ils veulent. Ils nous mettront au nombre des sectes. Ils nous mettront au nombre des religieux, des religions. Au nombre de ceux qui détournent les hommes. Au nombre de ceux qui exploitent les hommes. La Bible dit, mais si ils ont persécuté le maître, mais ils vous persécuteront aussi. Parce que le disciple n'est pas plus que le maître. La prédication de la croix, bien-aimée, nous emmène à comprendre ce que le Seigneur a vécu. Et d'une autre manière, nous le vivrons aussi, chacun à notre niveau. Le Seigneur a été mis de côté, on lui a craché dessus, on l'a déconsidéré. Bien-aimés, ne nous étonnons pas des combats que nous pouvons vivre. Ne nous étonnons pas lorsque on peut être traité de secte, qu'on peut être traité d'extrémiste. Le Seigneur l'a vécu. Il a été mis de côté. Il a été injurié, bien-aimé. Ne nous trompons pas. Lorsque nous, on sera mis en prison, comme c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de nos frères, en Chine, en Arabie Saoudite, en Irak, en Iran, dans les pays à majorité islamique, bien-aimé, beaucoup de nos frères sont persécutés, sont emprisonnés. Et quelquefois, ils font le même nombre d'années que ceux qui ont violé et ceux qui ont tué. Il y en a qui font 15 ans, 20 ans, bien-aimé, qui sont condamnés alors qu'ils ont prêché l'évangile et on les condamne comme s'ils avaient tué à cause de la parole, à cause de la prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent, bien-aimés. Jésus-Christ crucifié, les ténèbres arrivent sur la terre. La Bible dit que le centenier était là. Il a dit assurément, cet homme était fils de Dieu. La prédication, bien-aimée, de la croix nous enseigne que les gens ne reconnaîtront pas forcément le Seigneur, n'accepteront pas forcément le Seigneur. parce que tout va bien, parce que tout ira bien dans notre vie. Quelquefois, nous avons honte des souffrances que le Seigneur peut permettre dans notre vie. Nous avons honte des épreuves que Dieu peut permettre dans notre vie. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Je suis chrétien, mais je suis malade, ça fait longtemps. Je suis chrétien, mais je n'arrive pas à avoir d'enfant. Les gens de ma famille me regardent. Les gens de ma famille me disent, mais lui, il prie. Il va à l'église. Mais où est son Dieu ? Bien-aimé, le centenier romain a vu Jésus-Christ être crucifié. Il a participé à cela. Les ténèbres sont arrivées, mais il a confessé que celui-ci était vraiment fils de Dieu. Ce n'est pas dans les miracles forcément, bien-aimés, que les gens reconnaîtront que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas dans les miracles que les gens se convertiront. Beaucoup qui ont mangé le pain que Jésus avait multiplié, ils ont fui, ils ont abandonné, ils ont crié « crucifiez-le ». La prédication de la croix est une folie. Bien-aimés, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Quelquefois, nous voulons que tout aille bien, avoir de belles paroles pour pouvoir convertir les gens. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce centenier romain-là a vu Jésus-Christ dans sa détresse, a vu Jésus-Christ au plus bas. Mais c'est dans cet état-là, Jésus-Christ à la croix, que lui, il a confessé que celui-ci était le Fils de Dieu. Le brigand à la croix, à côté de Jésus, sur la croix, a confessé que Jésus-Christ était le roi des rois. Sur la croix, il a reconnu que celui-ci était un roi. Lorsque tu reviendras, souviens-toi de moi. Qu'est-ce que cet homme avait vu, bien-aimé ? La prédication de la croix est une folie. Et nous devons le comprendre, bien-aimé. Nous devons le comprendre. Nous devons adhérer, bien-aimé. Nous devons y croire fermement. Si les disciples, si les apôtres s'étaient bien-aimés, regardez tout simplement à leur état, alors qu'ils ont passé des années en prison, mais ils ne prêcheraient plus le Seigneur. S'ils avaient simplement regardé à leur état, bien-aimés, nous lisons aujourd'hui l'Apocalypse, mais cette révélation, l'apôtre Jean l'a eue dans la persécution. Il l'a eue alors qu'on l'avait exilé sur une île pour ne pas que le peuple entende son évangile. Mais toutes ces révélations-là, la gloire de Dieu s'est manifestée alors qu'ils étaient dans l'épreuve. Ils avaient compris que même si nous nous sommes liés, l'évangile n'est pas lié, car la prédication de la croix, si elle est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui ont saisi le Seigneur, elle est réellement une puissance. Elle est réellement une puissance. Les disciples ont vu leur maître crucifié, bien-aimé. Ils ont vu leur maître souffrir. Vous imaginez, bien-aimé, un homme être fort. Surtout pour les enfants, quelquefois, leur papa, c'est le plus fort du monde. Leur papa, c'est le héros. Un papa qui est au-dessus de tout le monde, qui tape tout le monde. Mais le jour où le fils va voir le papa se faire battre pour un plus petit, mais bien-aimé, tous les espoirs sont à terre. Les disciples ont vu Jésus-Christ faire des miracles. Ils ont vu Jésus-Christ ressusciter les morts. Mais ils ont vu Jésus-Christ impuissant sur la croix. Quel choc les disciples ont eu lorsqu'ils ont vu leur maître, celui qui disait qu'il était Dieu. Quel choc, bien-aimé. La prédication de la croix est une folie. Mais par cet état-là, des hommes et des femmes ont reconnu que celui-ci était réellement le Messie. Aujourd'hui, beaucoup qui se convertissent. Plus de 2000 ans après que le Seigneur soit retourné dans son royaume, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous qui sommes là, mais on n'a pas vu le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas vu le Seigneur, bien-aimé. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. Beaucoup, bien-aimés, ont reconnu le Seigneur en le voyant au niveau le plus bas. C'était quelque chose de difficile. Les disciples marchaient en allant sur la route d'Emmaüs. Ils étaient attristés, la Bible dit. Jésus-Christ est mort, mais on pensait que c'est lui qui allait nous délivrer des Romains. On a vu les prodiges et les miracles qu'ils ont faits. On pensait que c'était lui qui allait nous délivrer des Romains. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Bien-aimés, souvenons-nous de ce que le Seigneur a fait à la croix. La prédication de la croix nous enseigne, bien-aimés, que les choses ne sont pas forcément comme on le croit. Et ce n'est pas parce que, visiblement, les choses peuvent être contradictoires. Ce n'est pas parce que, visiblement, les choses semblent être mortes qu'elles le sont réellement. Ce qui est probable, bien-aimé, c'est ce que Dieu a dit. La vue va nous montrer des choses qui vont nous emmener quelquefois à faire des choix. Influencés par le doute, influencés par la crainte, parce que ce que nous voyons nous dépasse. Mais la prédication de la croix ne consiste pas à la vue, mais elle consiste tout simplement à la foi. Et le monde ne peut pas le recevoir, parce que le monde marche par la vue. Le monde veut voir avant de croire. Et c'est pour ça que cette prédication-là est une folie. Montre-nous le Père, Seigneur, et nous te croirons. Le Seigneur a dit, mais Philippe, depuis que tu es avec moi, tu n'as pas encore vu le Père. Le juste vivra par la foi et non par la vue. Nous lisons Luc chapitre 23. La Bible dit à partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui, de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Jésus-Christ sur la croix. Et il continue à prier encore, « Père, pardonne-leur. » Jésus-Christ sur la croix continue à affirmer que Dieu est son Père. La prédication de la croix bien-aimée nous enseigne que l'identité que nous avons reçue, la nature que nous avons reçue, ne doit pas changer en fonction des événements. On ne peut pas être chrétien et louer le Seigneur lorsque tout va bien. Si réellement nous sommes chrétiens, mais nous devons louer le Seigneur lorsque même ça ne va pas. Bien-aimés, lorsque je suis dans l'épreuve, vous n'allez pas voir que je vais changer de couleur de peau. Que Dieu me bénisse ou que Dieu ne me bénisse pas, ma couleur de peau sera la même. Parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est une nature, c'est une nouvelle identité que Dieu nous donne. Et elle ne doit pas changer en fonction des événements. Elle ne doit pas changer en fonction de l'environnement. Certains sont chrétiens lorsqu'ils sont au milieu des chrétiens. Mais lorsqu'ils sont au milieu des païens, ils ont honte d'être enfants de Dieu. Mais si nous avons reçu cette nature, c'est une nature qui doit être manifestée, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment. Parce que c'est une nouvelle nature que nous avons reçue. Jésus-Christ, dans l'épreuve, dans la difficulté devant tout le peuple, continue à affirmer qu'il est le Fils de Dieu. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même lorsque ça va mal, bien-aimés, nous devons affirmer que nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est une folie pour ceux qui périssent. Comment lui qui est dans l'épreuve? Comment lui qui est dans les problèmes, il continue de louer? Les gens n'arrivent pas à comprendre. Malgré des difficultés, malgré qu'il vient d'avoir un décès dans sa famille, il continue encore à faire confiance à Dieu. C'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour le monde. Mais comment cet homme-là, toute la semaine, il va louer le Seigneur? Mais pourtant, quand on mange tous les jours, personne ne dit, mais tous les jours, il mange. Allez louer Dieu, prêchez le nom du Seigneur. Mais tu n'es pas obligé d'aller tout le temps quand même, mais vous exagérez. Toute la semaine à l'église, mais vous exagérez, il n'y a pas besoin. On peut se contenter du dimanche. Vous exagérez, vous en faites de trop. C'est une nouvelle nature que Dieu nous a donnée et qui ne peut se manifester, bien-aimé. La vérité reste la vérité. La vérité, on n'a pas besoin de la prouver, bien-aimé. Tu vas sortir dehors, tu vois une voiture noire qui est garée là. On essaie de te faire croire que la voiture est rouge. Bien aimé, mais comment tu vas prouver que la voiture est noire? C'est évident qu'elle est noire. Il n'y a rien à prouver. Il y a juste à ouvrir les yeux. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, c'est une nature que nous avons reçue, bien aimé, et qui doit se manifester. On n'a pas besoin de prouver, faire toutes sortes d'exercices, mais on doit tout simplement le vivre. C'était quelque chose de totalement naturel chez le Seigneur. Même sur la croix, il a continué à confesser qu'il était le Fils de Dieu. N'ayons pas honte, bien-aimés, quelles que soient les difficultés que nous pouvons vivre, de continuer à dire oui, Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Même si moi, aujourd'hui, je suis peut-être dans tel cas, mais les nuages sont encore là. Ça, c'est la gloire de Dieu. Le soleil brille encore. Ça, c'est la gloire de Dieu. La puissance de Dieu ne se manifeste pas dans un seul individu. La puissance de Dieu se manifeste, la Bible dit, dans l'univers, lorsqu'on considère toutes ces choses-là. La gloire de Dieu ne doit pas chercher forcément, on ne doit pas chercher à ce que ça se manifeste en nous pour prouver. La gloire de Dieu se manifeste dans tout ce que Dieu a créé. Et Jésus-Christ, en situation défavorable, a proclamé qu'il était encore le Fils de Dieu. La prédication de la croix est une folie. Jésus-Christ crucifié, on lui a craché dessus, on lui a mis la couronne d'épines. Et il a encore l'amour pour dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais comment on t'a parlé comme ça, tu n'as pas répondu? Si c'était moi, tu allais voir. Comment on t'a injurié, tu ne t'es pas défendu? Comment tel qui t'a fait souffrir, aujourd'hui tu pardonnes encore? Mais cet homme n'est pas normal. C'est une folie pour ceux qui périssent. Il t'a maltraité pendant 10 années, aujourd'hui tu pries encore pour lui. Mais ça ne va pas. La prédication de la croix est une folie, bien-aimée. Le monde ne peut pas saisir ça. On frappe à droite, tu tends l'autre joue encore. Mais cet homme, c'est un poltron, mais c'est parce qu'il a peur. Jésus-Christ n'avait pas peur. Père, pardonne-leur. Jésus-Christ aimait les hommes. Et cet amour-là, le monde ne peut pas le saisir. On ne peut pas comprendre qu'une personne qui est crucifiée, une personne qui est mise à côté alors qu'il a fait du bien, ait encore l'amour et le courage de dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous savez, bien aimé, lorsqu'on dit qu'on ne sait pas, dire d'une personne, il ne sait pas ce qu'il fait. Bien aimé, mais c'est quelque chose de grave. Ça va au-delà du pardon. Non seulement tu le pardonnes, mais c'est en quelque sorte, tu ne lui rends pas coupable. C'est comme s'il était inconscient. Ce n'est pas de sa faute. C'est comme un enfant qui va mettre les doigts dans la prise. Il ne réalise pas les conséquences qu'il peut y avoir. Donc on va l'excuser facilement. Parce qu'il ne sait pas, il découvre encore la vie. Et facilement, on va excuser. Et même la justice aujourd'hui nous montre qu'aujourd'hui, un mineur qui tue ne sera pas considéré comme un adulte qui a tué. Un adulte est responsable de ses actes. Or, un mineur dans la justice est considéré comme n'étant pas responsable. Et c'est pourquoi les conséquences aussi ne sont pas les mêmes. Et le Seigneur dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est quelque chose, bien aimé, que le monde ne peut pas saisir. Des personnes responsables, des personnes, des centeniers qui étaient là, qui avaient sous leur responsabilité des gardes. Le Seigneur dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour de Dieu. La prédication de la croix nous enseigne, bien-aimés, que nous devons aimer quel que soit ce que les gens nous font. Nous devons aimer quel que soit le niveau des souffrances que l'on a pu nous faire subir, nous devons pardonner. C'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu, bien-aimés. Lorsque on pratique, qu'on a reçu cette prédication et qu'on la met en pratique, bien aimé, c'est par là que la puissance de Dieu se manifeste. Lorsque nous sommes dans l'obéissance, lorsque nous marchons conformément à ce qu'il nous a dit, c'est là où le Seigneur manifeste sa puissance. Nous voulons avoir des guérisons, nous voulons avoir les conversions des membres de nos familles. Bien aimé, libérons le pardon, pardonnons. C'est lorsque nous pardonnons que le Seigneur est maintenant libre et à l'aise de pouvoir agir puissamment. Mais lorsqu'il y a des rancœurs dans le cœur, bien-aimé, est-ce que Dieu peut agir comme ça? Dieu est juste et il ne peut pas agir là où il n'y a pas la justice. Dieu est juste et si nous nous soumettons, si nous acceptons de souffrir pour que lui soit élevé, alors Dieu fera des grandes choses. Souvent on dit, mais où sont les miracles que les apôtres faisaient, mais on n'en voit plus aujourd'hui? Où sont les miracles que les disciples faisaient? On n'en voit plus aujourd'hui. Bien-aimés, la Bible dit, ils laissèrent tout, ils abandonnèrent tout. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Alors on peut dire, mais où sont les miracles? Mais on peut répondre aussi, mais où sont les disciples qui vont tout abandonner? Ils ont tout abandonné et ils ont vu la gloire de Dieu. Étienne persécuté, en train d'être tué, bien-aimé. Ne leur impute pas ce péché. Il leur pardonne le péché pendant qu'on est en train de le lapider. La Bible dit, il a vu le Seigneur debout. Il a vu la gloire de Dieu, bien-aimé. Il n'a pas vu la gloire de Dieu pendant qu'il ressuscitait les morts, pendant qu'il guérissait les malades. Il a vu la gloire de Dieu pendant qu'il souffrait. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais nous refusons de souffrir. Si la prédication de la croix, bien-aimé, est une puissance, comme il est dit, c'est la prédication de la croix. Or, lorsque nous pensons à la croix, nous pensons à la souffrance. Sur la croix, il n'y a pas la joie. Sur la croix, il n'y a pas, je dirais, à l'aise, le côté à l'aise, quand on serait sur un bon matelas, bien-aimé. Sur la croix, c'est une situation inconfortable. Mais c'est sur la croix que le Seigneur a tout accompli. C'est par la souffrance que le Seigneur nous a justifiés. Tout disciple accompli sera comme son maître. Si nous voulons suivre le Seigneur, bien-aimé, ne nous souvenons pas simplement de Jésus-Christ en train de multiplier le pain, en train de guérir les malades. Souvenons-nous de Jésus-Christ aussi sur la croix. Nous avons cette facilité à nous souvenir de Jésus-Christ en train de chasser les démons. Lorsque l'on prie, lorsqu'on se sent persécuté, lorsqu'on se sent oppressé, ce n'est pas mauvais, bien-aimé, mais tout a été accompli sur la croix. Le Seigneur aurait pu faire tous les miracles, mais s'il n'y avait pas eu le sacrifice sur la croix, alors tous ces miracles-là auraient été vains, bien-aimé. Tous ces miracles-là auraient été vains. Le plus grand des miracles que le Seigneur a fait, c'est d'aller sur la croix et de ressusciter. Alléluia. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5, la Bible dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Bien-aimé, c'est grave. Jésus-Christ était égal à Dieu. Il avait la même autorité que Dieu. Il avait la même capacité de Dieu. Mais la Bible dit qu'il a accepté de renoncer à ça. Il a accepté de se dépouiller lui-même. Le Seigneur s'est humilié déjà, bien-aimé, déjà pour un temps de laisser sa gloire, de venir déjà sur la terre. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. La gloire qu'il avait, il a accepté pour un temps de la mettre de côté. Bien-aimé, vous ne verrez jamais, surtout dans les pays où il y a des dictateurs, que Monsieur le Président, Monsieur Son Excellence, accepte, bien-aimé, de venir un jour vivre comme Monsieur Tout le Monde, marcher pieds nus dans le village, bien-aimé, aller au marché faire ses courses. Vous ne verrez pas ça. Voir un président dictateur, bien-aimé, faire ses excuses pour les mauvais choix qu'il a faits, vous ne verrez pas ça. Mais Jésus-Christ, plus qu'un homme, plus qu'un président, plus qu'un roi, il accepte de venir sur la terre pour se dépouiller de cette royauté-là, de se dépouiller de cette gloire pour venir servir les hommes. Il s'est dépouillé lui-même, la Bible dit qu'il était égal à Dieu. Le message de la croix, bien-aimé, nous apprend que Jésus-Christ a fait ce choix délibérément. Il a fait ce choix volontairement de se dépouiller et d'accepter d'aller sur la croix. Le chemin de la croix peut être difficile, bien-aimé. Mais la Bible nous enseigne que Dieu ne nous force pas. Dieu ne nous oblige pas à passer par là. Jésus-Christ s'est dépouillé. Il a fait le choix pour que la volonté de Dieu soit parfaite. Souffrir pour la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est un choix qui nous appartient. Dieu ne nous forcera pas. Lorsqu'on nous fait du mal, nous avons le choix de répondre ou de dire « j'accepte de m'humilier ». Dieu ne nous force pas. Lorsque nous péchons, bien-aimés, parce que nous avons refusé la condition que Dieu nous imposait, Dieu ne nous force pas. Le choix, nous l'avons fait délibérément, librement. La prédication de la croix, bien-aimés, c'est un choix délibéré. C'est à nous de faire le choix. Les apôtres ont vu la gloire de Dieu parce qu'ils ont fait le choix de renoncer à tout. Ils ont fait le choix de vivre loin de leur famille. Ils ont fait le choix de ne dépendre que de Dieu. Lorsque le Seigneur a appelé Pierre et ses frères qui étaient à la pêche, bien-aimés, c'était le jour où le Seigneur avait fait une pêche miraculeuse qui pouvait leur apporter beaucoup d'argent. La Bible dit qu'ils ont tout laissé, ils ont suivi le Seigneur. Matthieu était sur son bureau. Il était à l'aise. Il avait une bonne position. Il ne manquait de rien. Le Seigneur est passé par là. Lève-toi et suis-moi. Bien-aimé, il n'a pas soulevé son bureau. Il est parti avec. Il allait tout laisser là. Ils ont fait ce choix-là clairement. Ce choix-là nous appartient, bien-aimé. Et c'est pourquoi c'est une folie pour ceux qui périssent. Comment des personnes qui étaient bien, un cadre de famille idéal, ben, il accepte aujourd'hui de servir le Seigneur et de partir faire des missions et laisser sa famille. Mais cet homme est inconscient. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Il gagne bien sa vie. Il est parti dans l'église, depuis qu'il est dans le Seigneur, il n'a que des problèmes. C'est un choix, bien-aimé, qui est libre. Dieu ne nous impose rien du tout. Et ça, c'est une folie que le monde ne peut pas saisir. Bien souvent, lorsque l'on suit le Seigneur, on dit, mais non, ça certainement, dans leur église, on lui a lavé le cerveau. Le monde a du mal à comprendre qu'un bon matin, un homme avec toute sa tête, qui a fait des études, qui réfléchit, qui a élevé des enfants, puisse aller se mettre à genoux pour dire Jésus-Christ est Seigneur. Le monde ne peut pas le comprendre. Cette prédication-là est une folie. Mais cette folie-là, bien-aimé, passe par le choix que nous-mêmes nous avons fait. Et c'est vrai que ça peut paraître comme une folie. C'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. Une personne qui a toute sa force, qui est en forme, un sportif, il se fait gifler et ne répond pas. Mais ça, c'est une folie que le monde ne peut pas saisir, bien-aimé. L'apôtre Paul avait tout. C'était un pharisien, ils étaient respectés dans le peuple. On lui avait donné le droit d'aller arrêter les chrétiens. Mais lorsqu'il a vu Jésus-Christ, bien-aimé, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur ne lui a pas dit, lève-toi, tu vas me servir. L'apôtre Paul lui-même a posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est notre choix, bien-aimé. Le Seigneur était dans toute sa gloire. La Bible dit, il a accepté de renoncer à ça. Il a mis tout ça de côté pour s'humilier jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort, bien-aimé, venir vivre sur la terre au milieu des pécheurs. Ça, c'est la mort. Mais encore aller jusqu'à la mort de la croix, jusqu'à la mort dans la chair. Accepter de souffrir dans la chair. Et la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il était égal à Dieu. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons faire de nous-mêmes. Nous avons la capacité, nous avons l'autorité sur certaines choses, sur certains domaines. Mais on fait le choix de dire, Seigneur, conduis les choses. On peut avoir de l'argent, mais on fait le choix de dire, Seigneur, gère les finances. C'est un choix délibéré. Ayons en nous ces sentiments-là. C'est la prédication de la croix, bien-aimé. Ayons en nous les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur, que Jésus-Christ avait. Nous pouvons être libres aujourd'hui de conduire notre vie comme bon nous le semble. Mais si nous sommes animés du même sentiment que Jésus-Christ, alors on dira, Seigneur, prends tout. Conduis ma vie. Seigneur, je voudrais aller dans telle direction. Mais toutefois, que ta volonté à toi soit faite. La priorité à Dieu. Même si le Seigneur nous a donné la capacité de pouvoir faire certaines choses, malgré cette capacité-là, on ne s'en sert pas pour faire notre volonté, mais on se soumet tout simplement, on s'humilie pour que la volonté de Dieu soit faite. Et la Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Parce qu'il s'est humilié. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les apôtres ont accepté de tout abandonner, bien-aimés. Et la Bible dit que sur les colonnes de la Nouvelle Jérusalem, il est inscrit leur nom. Dieu les a élevés, il leur a mis un niveau au-dessus des hommes. Parce qu'ils ont accepté de s'humilier, ils ont accepté de se dépouiller. L'apôtre Paul dit, j'ai le droit de venir et de vivre de l'évangile. J'ai le droit de venir et de vivre de vos biens. Mais toutefois, afin de ne pas être un obstacle pour l'évangile, je renonce à ce droit-là. J'ai le droit, mais je renonce à ce droit-là. Tout ce qui était pour moi une force, j'ai considéré tout ça comme une perte, comme de la boue, afin de gagner Christ. Il a accepté de renoncer à tout ce qui faisait son autorité, à tout ce qui faisait sa gloire parmi les hommes. Il a accepté de regarder tout cela comme une perte. C'est un choix qu'il a fait délibérément. Et aujourd'hui, bien-aimés, ce sont ces hommes-là qui ont accepté de s'humilier, qui nous exhortent à travers leurs Écritures. Leur nom est inscrit dans la Bible, bien-aimés. Leur nom est inscrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose de grand, parce qu'ils ont accepté de s'humilier. Le choix nous revient, bien-aimés. On peut aujourd'hui vivre notre vie chrétienne comme on le veut. Dieu ne nous forcera pas. On peut chercher à fuir les épreuves. On peut chercher à fuir la souffrance. Dieu ne nous forcera pas, bien-aimés. C'est un choix que nous devons faire, accepter de passer par le même chemin que le Seigneur a tracé, bien-aimés. Une sagesse, bien-aimés, que nous pouvons comprendre aujourd'hui parce que nous avons reçu l'Esprit du Seigneur. La prédication de la croix est une folie. Mais aujourd'hui, bien-aimés, si nous pouvons comprendre ce qui est dit aujourd'hui, si nous pouvons comprendre la prédication de la croix, alors c'est un don merveilleux du Seigneur. L'apôtre Paul dit que la prédication de l'évangile, c'est une folie que les grands de ce monde ne peuvent pas saisir. Les puissances ne peuvent pas saisir. Tous ceux qui sont élevés en dignité ne peuvent pas saisir. Et il dit dans 1 Corinthiens 2 que s'ils avaient compris cette prédication-là, alors ils n'auraient pas crucifié Jésus. S'ils avaient compris le message de la croix, si Satan avait compris le message de la croix, alors il n'aurait pas crucifié Jésus. Bien-aimés, Satan existe des années et des années et des années avant nous. Avant que le Seigneur vienne sur la terre, il y avait déjà des hommes sur la terre que Satan avait tentés, que Satan avait détournés. Satan avait une expérience plus que l'homme de la vie. Mais il n'a pas pu saisir la sagesse de Dieu. Comprendre la prédication de la croix, bien-aimé, c'est un don qui est inestimable. Le Seigneur dit à ses disciples, mais ce que vous voyez, ce que vous entendez, les prophètes même de l'Ancien Testament avaient désiré entendre ça, avaient désiré voir cela. Ils avaient fait des exploits, ils avaient servi le Seigneur dans la fidélité, dans la droiture. Mais ils n'avaient pas eu une totale révélation de la prédication de la croix. Quel don merveilleux le Seigneur nous fait, bien-aimés, de pouvoir comprendre le message de Jésus, de pouvoir comprendre le sacrifice de la croix, de pouvoir comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur dit, on demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné. Dieu nous demandera beaucoup de comptes parce qu'il nous a aussi beaucoup donné, il nous a beaucoup révélé. on sera jugé, bien-aimé, en fonction de ce que nous connaissons. Nous avons connu le véritable, nous avons connu le Seigneur, et le Seigneur nous jugera en conséquence. La prédication de la croix. 3 jours après, le Seigneur ressuscite. La résurrection, bien-aimée, confirme encore que c'était un choix délibéré, un choix volontaire du Seigneur de passer par cette mort-là. S'il est revenu à la vie, donc c'est la démonstration que oui, s'il est mort, c'est parce qu'il avait voulu. S'il a accepté d'aller à la croix, c'est parce qu'il avait voulu. La résurrection, bien-aimée, définitive, celle que nous attendons. La résurrection finale, dans laquelle nous serons dans des corps incorruptibles, comme la Bible le dit, où nous serions dans la présence du Seigneur. Cette résurrection-là, bien-aimée, sera le témoignage du choix qu'on aura fait sur la terre. Jésus-Christ a prouvé qu'il était au-dessus de la mort. En revenant à la vie, c'est la preuve qu'il était le maître sur la mort, qu'il contrôlait la mort. Il est mort et il est ressuscité pour nous prouver qu'il était au-dessus de la mort. Et le jour où nous serons devant le Seigneur, ça sera le témoignage, bien-aimé, du choix qu'on avait fait sur la terre. Les hommes ne peuvent pas être maîtres pour discerner qui a fait le choix et qui ne l'a pas fait. La Bible nous enseigne dans la parabole du bon grain et de l'ivraie que pour certains cas, on verra seulement tout à la fin. Quand on sera dans la présence du Seigneur, eh bien, ça sera la confirmation du choix qu'on avait fait réellement de suivre le Seigneur. Mais le choix, c'est aujourd'hui. Le choix, c'est maintenant qu'il faut le faire. Nous ne savons pas de quoi est fait le lendemain. Et ce choix-là, bien-aimé, nous pouvons le faire et aller jusqu'au bout si nous gardons dans notre cœur la prédication de la croix. Qu'est-ce que le Seigneur est venu faire pour nous? Ceux qui ont tenu jusqu'au bout, bien-aimés, ils ont serré la parole du Seigneur contre leur cœur. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Souviens-toi de Jésus qui a vaincu la mort. Devant toutes les réponses de la vie, devant toutes les difficultés de la vie, bien-aimés, regardons à la croix. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui qui peut être au-dessus du miracle que le Seigneur a accompli? Si le Seigneur lui-même a pu ressusciter des morts, alors à combien plus forte raison, bien-aimés, il nous gardera de tout? Pourquoi avoir peur des démons? Pourquoi avoir peur des sorciers? La prédication de la croix nous dit que Jésus-Christ a vaincu les dominations. Il les a traduits publiquement en spectacle. Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La prédication de la croix répond à tout, bien-aimé. Jésus-Christ est mort pour nous, mais il est aussi ressuscité pour nous donner l'assurance de sa parole. Or, il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Pourquoi douter? Pourquoi avoir peur d'abandonner le Seigneur un jour? Pourquoi avoir peur de ne pas aller jusqu'au bout? Puisque Jésus-Christ a tout accompli. Si le Seigneur est mort, si le Seigneur a accepté que Jésus-Christ meure, bien-aimé, serait-ce pour nous laisser tomber comme ça du jour au lendemain? Des années et des années dans lesquelles Dieu nous a parlé dans des songes, dans lesquelles Dieu nous a prêché. Enfin, il nous tient et facilement il va nous lâcher, bien-aimé. Loin de là. Jésus-Christ est mort sur la croix, mais il est revenu à la vie. Et notre assurance se trouve là, bien-aimé. Élisée est mort. Les cadavres sont tombés sur ses ossements, ils ont ressuscité. Mais Élisée est resté dans le tombeau, malgré ses exploits. Mais Jésus-Christ est revenu à la vie. Notre espérance se trouve là, bien-aimé. Toutes les religions du monde, toutes les prophètes du monde ont leur tombeau. Ils n'ont plus d'espérance, puisque celui qui leur a fait la promesse est mort. Je peux te promettre aujourd'hui, bien-aimé, que je vais te faire un chèque d'1 million d'euros. Tant que je suis en vie, tu es là, tu espères, tu es en forme. Mais si tu apprends la mort de celui qui devait te faire le chèque, bien aimé, tu vas tenir la tête. Aïe, je n'aurai plus jamais mon argent. Les prophètes de religion ont fait des promesses. Mais ils sont morts aujourd'hui. Mais nous, celui qui nous a fait la promesse est vivant. Donc, tant qu'il est vivant, la promesse subsiste toujours. Comment celui qui est mort te donnera-t-il ce qu'il t'a promis, bien-aimé? Il n'y a que le vivant qui peut te donner ce qu'il a promis. Tu peux te confier aux hommes, ils mourront un jour. C'est comme ça que beaucoup sont dans la dépression nerveuse. Il attendait tout de sa femme, il attendait tout de son mari. Le mari le quitte, la femme le quitte, hôpital psychiatrique. Tout l'espoir était fondé dans le mari ou dans la femme. Le pasteur m'a déçu. Il m'a mal parlé, il ne m'a pas salué. Je quitte l'église. Parce que tout était fondé sur un homme. Même si le pasteur t'a trahi, Jésus ne te trahira jamais. Même si ton mari te quitte, Jésus, lui, ne te quittera jamais. C'est là notre espérance, bien-aimée. Dans celui qui a la possibilité de donner la vie et la mort. Souvenons-nous du Seigneur. Celui qui garde le Seigneur dans son cœur, qui se souvient de ce que le Seigneur a fait pour lui, ne cherchera jamais à prendre la place de Jésus. Il ne cherchera pas à se faire roi sur les gens, à vouloir dominer les gens. Les gens qui sont venus se prosterner devant les apôtres ont déchiré leurs vêtements. Nous sommes des hommes comme vous. Ne faites pas ainsi. Il n'y a que Jésus-Christ qui mérite la gloire et l'adoration. Celui qui se souvient de ce que le Seigneur a fait pour lui, il ne pourra pas le trahir, bien-aimé. Ceux aujourd'hui qui font de l'Église leur propre entreprise, leur propre source de revenus, ils ont oublié le message de la croix. Ils ont oublié la prédication de la croix. Quelqu'un qui a connu le Seigneur ne peut pas faire des choses ainsi. Mais la Bible a annoncé que dans la fin des temps, les choses seront ainsi. Alors on se soumet puisque la Bible les a annoncées. Bien-aimés, souvenons-nous de Jésus crucifié, souvenons-nous du message de la croix. Que Jésus-Christ soit élevé au siècle des siècles. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur de gloire, nous te rendons grâce. Seigneur, une fois de plus encore, c'est vrai, nous reconnaissons que toi seul es Dieu, que toi seul es élevé, que toi seul es digne de louange et d'adoration. Seigneur de gloire, nous reconnaissons que tu n'as pas d'égal, Seigneur de gloire. Tu n'as pas de rival, Seigneur. Tu n'as pas de concurrent. Tu es seul, tu es unique. Toi seul es ressuscité des morts. Seigneur, tu t'es humilié. Tu as accepté de payer le prix. La Bible dit que tu étais égal à Dieu. Tu étais semblable à Dieu, Seigneur. Mais tu as accepté de te dépouiller. Tu as accepté de renoncer au droit que tu avais, Seigneur de gloire, pour mourir sur la croix. Éternel Dieu de gloire, c'est vrai. Les disciples ne pouvaient pas faire autre chose que de s'humilier comme toi, Seigneur. Ils t'ont vu dans toute ta gloire, Seigneur de gloire. Mais ils t'ont vu aussi crucifié. C'est pourquoi, Seigneur de gloire, ils ne pouvaient pas faire autre chose que de te suivre, Seigneur. Ils t'ont vu comment tu t'es humilié alors que tu avais la capacité de pouvoir juger les hommes. La Bible dit que lorsque les gardes sont venus te chercher dans le jardin de Gethsémané, Seigneur, ils ont demandé « Où est Jésus ?» Tu as répondu « C'est moi ». Tous, ils sont tombés à terre, Seigneur. Tu as manifesté que tu es au-dessus de tout. Ils sont tous tombés à terre. Mais ensuite, tu t'es laissé faire, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, c'est vrai. Tu t'es dépouillé, Seigneur de gloire. Et combien même, Seigneur, le chemin de la croix peut être difficile, parce qu'il est quelquefois difficile, c'est vrai, Seigneur de gloire, pour la chair, Seigneur. Et tu sais combien nous avons besoin de toi, Seigneur de gloire, pour accepter de vivre ce que toi tu as vécu, Seigneur. Mais si nous élevons nos voix ce matin, Seigneur de gloire, c'est parce que nous avons cru à ton évangile. Tu as fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur, nous avons vécu des événements difficiles quelquefois. Nous avons vécu des épreuves. Mais aujourd'hui, nous sommes debout, Seigneur. Oui, Seigneur de gloire, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur, mais tu as été fidèle. Tant de fois, Seigneur de gloire, lorsque nous avons accepté de nous humilier, Seigneur de gloire, tu as manifesté ta grâce, tu as manifesté ta puissance, Seigneur. Déjà lorsque même nous étions dans le monde, lorsque nous étions parmi le nombre des mauvais, Seigneur, parmi le nombre des païens, Seigneur de gloire, tu avais déjà manifesté ton amour en donnant Jésus-Christ à la croix. Alors à combien plus forte raison maintenant, Seigneur de gloire, que nous t'avons connu, nous à qui tu as révélé, Seigneur de gloire, le message de la croix, nous à qui tu as révélé, Seigneur de gloire, ta divinité, tu as révélé ta bonté, Seigneur. Seigneur, aide-nous ce matin à nous attacher à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous réjouir dans tout ce que tu permets. Car c'est dans les difficultés que nous verrons ta gloire, Seigneur. C'est dans les difficultés, Seigneur, que nous verrons ta puissance. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne plus avoir honte, Seigneur de gloire, de ce que nous pouvons vivre. Avoir honte, Seigneur de gloire, par rapport à ce que les gens diront, Seigneur, par rapport à notre état. Tu as dit toi-même dans ta parole que celui qui veut se glorifie de te connaître, toi. Te connaître, Seigneur de gloire, c'est la meilleure chose que l'homme pouvait espérer, Seigneur. Nous étions loin de toi par le péché. Mais la prédication de la croix, Seigneur, nous dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Ainsi, nous avons accès au lieu très saint. Seigneur, merci. Parce que aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec toi par le sacrifice de Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre parfaite de la croix. Aide-nous, Seigneur de gloire, à nous en souvenir, Seigneur, afin de tenir ferme lors des mauvais jours. Afin de tenir ferme, Seigneur de gloire, devant les tentations, Seigneur, lorsque le péché nous tente, Seigneur de gloire, que nous puissions nous souvenir que le péché a été cloué à la croix. Tu nous as dit, Seigneur de gloire, de ne plus être esclaves des hommes. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis, Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves du péché, car c'est toi qui es notre rédempteur. Tu nous as rachetés, Seigneur de gloire. Tu as payé le prix, tu as payé la rançon, Seigneur. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci Seigneur de gloire pour ce que tu accomplis, Seigneur.